ce soir, nous avons la cérémonie de l'office du pardon. C'est-à-dire qu'à la fin du repas, où nous pouvons manger de tout sauf de la viande, et c'est le dernier repas avant Pâques, où on peut encore manger des laitages, des œufs, donc les fromages, les œufs, du poisson, je crois que j'ai fait le tour, de l'huile, et le vin, simplement le samedi et le dimanche. Et à la fin de ce repas où on mange pour la dernière fois de toutes ces choses pendant 50 jours, et il y a l'office des complices. On chante tous les tropères à la mère de Dieu, tous les apolitica, pour demander à la mère de Dieu, aux saints et aux anges, de nous aider pendant notre effort de conversion pendant tout ce carême. Après, et nous aurons l'occasion d'en reparler ce soir, après quoi nous passons les uns devant les autres et nous demandons mutuellement pardon. Bien sûr, quand on se demande mutuellement pardon, ça ne veut pas dire qu'on a fait du tort à tout le monde. On va même demander pardon et on accepte le pardon à ceux auxquels nous n'avons pas fait de tort. Mais ceci montre que tout péché, quel qu'il soit, a une répercussion sur tous. Non seulement nous met en opposition avec Dieu, mais nous met en opposition avec tous ceux qui sont les membres du corps de Christ, donc les uns avec les autres. À chaque fois que je commets un péché, à chaque fois, c'est vous aussi que je blesse, même si c'est un péché complètement inconnu de vous et qui ne vous a pas touché. Et si j'ai volé Arsène de sa belle montre que lui a donnée sa maman, vous n'êtes pas concerné, mais je peux vous demander pardon à vous, sans vous dire que ça veut dire quoi, mais parce que vous êtes aussi concerné par mon péché. Mon péché m'a séparé de vous. Donc il y a cette demande communautaire de pardon qui vient d'ailleurs après une absolution générale, et je dois dire aussi que cette absolution générale qui se donne deux fois par an tout de suite et le grand jeudi, cette absolution nécessite aussi une confession individuelle avec le prêtre à un moment ou à un autre. Ne venez pas, vous êtes 90 aujourd'hui, ne venez pas tous cet après-midi pour vous confesser, hein, parce que je ne vais pas réussir. Ou alors vous faites comme quelquefois ça se fait, notamment on a vu ça en Russie, on le voit encore quelquefois, tout le monde est tellement plein de compunction grâce aux paroles remplies du Saint-Esprit que donnent les vrais confesseurs, et des confessions publiques où tout le monde pourrait se mettre comme ça tout d'un coup à exprimer ses péchés en public, de manière à avoir le pardon de tous et la réconciliation de tous. Faites-le si vous voulez, moi j'ai encore quelques réticences à le faire pour ma part. Mais c'est pour dire que ça peut se faire, ça peut arriver. À ce rituel, à cette habitude, à ce baiser de paix qu'on se donne le soir du pardon pour entrer dans le carême, correspond le jour de Pâques, la nuit de Pâques, correspond un autre baiser fraternel et communautaire, c'est à la fin de l'orthros, après les stichères de Pâques, quand on chante « Embrassons-nous les uns les autres » au nom de la Sainte Trinité, à ce moment-là, vous vous rappelez, tout le monde passe et tout le monde s'embrasse d'un baiser de paix. Normalement, c'est une accolade, c'est pas un baiser amoureux, malgré la pratique de certains quelquefois. Ce baiser, cette accolade, ce baiser de paix de la liturgie pascale est la suite, la conclusion, le sceau, si l'on peut dire, du baiser qu'on vient de se demander, qu'on vient de se donner 50 jours avant pour le dimanche du pardon, où on se demande pardon les uns les autres en s'embrassant, et à 50 jours plus tard, à la résurrection du Christ, on s'embrasse de nouveau dans la joie de la résurrection, mais parce que cette communion qui nous apporte la joie a été réalisée préalablement par le pardon mutuel et par notre effort de conversion tout au long du carême. J'en profite aussi pour vous dire que pendant le carême, vous savez qu'on ne célèbre pas la liturgie de Saint Jean Chrysostome, la liturgie consécratoire ou de Saint Basile, sauf les samedis et dimanches, mais en semaine, les mercredis et vendredis, il y a ce qu'on appelle la liturgie des pré-sanctifiés, c'est-à-dire des dons qui ont été préalablement sanctifiés le dimanche, le pain et le vin qui sont devenus le corps et le sang du Christ, qui ont été consacrés le dimanche et qui sont mis dans une réserve, dans une sainte réserve, dans un tabernacle, si vous voulez, pour être distribués sous forme de communion à la fin de l'office des vêpres du mercredi et du vendredi. Parce que l'Église, ne célébrant pas de liturgie à proprement parler, mais nous invitant à un effort de conversion, à un effort ascétique, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous orienter dans notre conversion, nous donne la possibilité deux fois par semaine, outre les samedis et dimanches, de pouvoir encore communier. C'est pour ça qu'on a cette communion aux dons qui ont été préalablement sanctifiés, donc aux pré-sanctifiés. Et pendant cet office des pré-sanctifiés, qui est une authentique liturgie mais sans consécration, à peu près au milieu de cette cérémonie-là, il y a un encensement très solennel de l'autel d'abord, puis de l'iconostase et de tous les fidèles, avec le chant que ma prière s'élève devant toi comme l'encens, comme le sacrifice du soir. C'est un rite très 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 ancien dont l'origine remonte à la liturgie du temple de Jérusalem bien avant que le Christ ne se soit historiquement incarné. Et à cette cérémonie-là, à cet encensement très solennel, correspond aussi un autre encensement très solennel que l'on pratique après le jour de Pâques et après Pâques. Rappelez-vous que tout office, au début de l'orthros, au début des vêpres et au début de la liturgie, le prêtre encense en forme de croix, c'est-à-dire quatre fois les côtés de l'autel, en chantant « Que Dieu se lève et que ses ennemis se dispersent », le chant de victoire, en quelque sorte, de l'Église, qui reçoit la révélation et l'incarnation du Christ, et qui, grâce à lui, le Christ, les démons sont vaincus, y compris la mort, puisque nous avons accès à la résurrection. Donc cet encensement solennel de Pâques est la réponse, encore le comme je vous l'ai dit préalablement pour le baiser de paix, le sceau de ce que nous avons vécu pendant la liturgie des pré-sanctifiés. Et ceux qui ont la chance, parce qu'ils sont en retraite et qui ont le loisir de le faire et qui n'habitent pas trop loin d'une église, ceux qui ont la chance de participer à ces vêpres et liturgie des pré-sanctifiés peuvent vivre par avance, prophétiquement en quelque sorte, la joie et la l'attitude intérieure qu'ils ressentiront et que tout le monde ressentira aussi pour la nuit pascale et tous les jours qui s'en suivent jusqu'à la fin des siècles. Non, parce que si on est limité par les cycles liturgiques, les mystères célébrés pendant dans la liturgie se continuent perpétuellement. Évidemment, ils ne s'arrêtent pas avec la fin d'un temps liturgique, c'est bien évident. Et je voudrais en revenir, pour terminer, à ce que nous avons entendu de l'épître de saint Paul. C'est l'heure désormais de vous arracher au sommeil. Le salut est maintenant plus près de nous qu'au temps où nous avons cru. Ce verset de l'épître aux Romains nous met tout à fait dans l'orientation du carême que nous allons suivre maintenant, avec l'évangile qui lui fait écho, que nous avons entendu tout à l'heure, c'est-à-dire un évangile nous rappelant une fois encore, avant d'entamer le carême, que ce n'est pas la cèse elle-même du carême, le jeûne ou toute forme d'ascèse qui nous sauve, mais que c'est vraiment, et qu'il faut le faire, je veux dire, sans hypocrisie, parce que c'est l'amour de Dieu et des autres que sous-tend notre ascèse qui vraiment nous sanctifie, et non pas l'ascèse par elle-même. Et mais le saint Paul, ici, dans son épître, nous dit que le salut maintenant est plus près de nous. Et le but du carême est de nous faire comprendre, de nous faire sentir, de nous faire expérimenter, plus exactement, l'urgence ou l'imminence, plus exactement, de la venue du Sauveur. Le Seigneur vient, et c'est maintenant qu'il vient. N'attendons pas d'avoir 71 ans pour nous convertir, c'est aujourd'hui que les uns et les autres, nous devons nous convertir, parce que le Seigneur vient aujourd'hui. Non seulement parce que, quel que soit notre âge, la mort peut nous faucher et nous emmener dans l'au-delà des maintenant, mais parce que, de fait, nous dépassons le temps, et c'est aujourd'hui que nous avons rencontre avec le Seigneur. Donc nous sommes plus près maintenant que jamais de notre salut. Et qu'est-ce que c'est que le salut ? Le salut n'est pas une récompense qui nous serait éventuellement donnée après notre mort si nous nous sommes à peu près bien comportés. Le salut, c'est la participation à la vie même de Dieu. Et la participation à la vie de Dieu n'attend pas notre mort, n'attend pas la vie de l'au-delà, elle est une vie au-delà de ce qui est purement, saint Paul dirait, charnel, c'est-à-dire ce qui est purement humain, ce qui est purement sensible, si vous voulez. Mais le salut est une expérience au niveau de la foi, de cette communion qui existe entre Dieu et nous, parce qu'il se donne à nous, et par voie de conséquence, cette communion les uns avec les autres. D'où l'importance d'effectivement se pardonner, non pas à nous 100 qui sommes ou 90 qui sommes ensemble tout de suite, mais de pardonner absolument à tout le monde, parce que si j'ai un ressentiment, pas une souffrance, mais si j'ai un ressentiment, une volonté de non pardonner, une haine, autrement dit, à l'égard de quelqu'un, c'est à ce moment-là, ça me coupe de tous, et ça me coupe de Dieu et de tous les hommes. Et comme le salut, c'est cette communion avec Dieu, cette vie commune avec Dieu, s'il y a quelque chose qui vient rompre cette communion, à ce moment-là, je ne participe pas au salut. Donc, entrer dans cette véritable joie du carême, je crois d'ailleurs que votre présence nombreux ici montre l'enthousiasme avec lequel vous voulez entrer dans ce carême, parce que vous sentez qu'il y a un rendez-vous, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à rencontrer. Mais justement, prenez les moyens de le rencontrer par l'amour, un amour universel, pas un amour style New Age, mais un amour concret et de vraie conversion, qui demande un sacrifice, qui demande un renoncement de soi pendant la communion. Vous avez lu je ne sais quelle lettre Saint Théodore Studite disait que le but était pas le but mais ce qui devait nous animer, c'était le renoncement à la volonté propre, et ça c'est fondamental. Le carême nous apprend, nous invite à renoncer précisément à notre volonté propre. S'il n'y a pas de volonté propre, pas de renoncement à la volonté propre, forcément, ça nous oppose les uns les autres, ça nous fait fâcher les uns avec les autres, ça nous met en guerre les uns avec les autres, et à ce moment-là, nous passons à côté du salut sans bénéficier aujourd'hui du salut. Le salut n'est pas une tranquillité, c'est pas d'être peinard dans sa vie, ce n'est pas ça, c'est le salut. Le salut se pressent, commence à se réaliser déjà par la bonne entente les uns avec les autres, et la bonne entente implique que moi, je me mette en harmonie avec les autres, mais si les autres ne sont pas en harmonie avec moi, ça ne m'empêche pas, moi, d'être en harmonie avec eux. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est à nous de nous convertir, et si les autres ne se convertissent pas, si les autres ont de la haine contre eux, quelqu'un a de la haine contre moi, ça ne m'empêche pas de connaître le salut, à condition que moi, je pardonne et que j'aime l'autre. Et si tout le monde fait autant, si on en faisait autant, il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait pas de... ce serait le paradis. Mais le paradis, le but de l'Église... c'est précisément d'amener le paradis sur terre, de faire descendre le paradis, parce que le paradis, ce n'est pas autre chose que le salut, donc de la présence de Dieu. Allez, bon carême, enfin on va en reparler ce soir pour ceux qui sont encore là.